passer la parole à Evelyne Bourion, qui va traiter le thème « Lecture non linéaire dans la comédie humaine ».
Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de la comédie humaine. Et je vais situer le cadre dans lequel je me place, le cadre de recherche, qui est une recherche en sémantique du texte. Donc, je ne suis pas une spécialiste de Balzac, je ne suis pas une spécialiste des traitements statistiques sur les textes, mais ayant eu à ma disposition l'ensemble textuel franc-texte, j'ai voulu aller travailler un peu là-dedans avec certaines hypothèses et dans le cadre d'un ensemble théorique qui est la sémantique du texte, la sémantique interprétative de François Rastier, dont j'évoquerai peut-être quelques concepts chemin faisant ou à l'occasion d'une question ou l'autre. Donc je voudrais surtout au départ prendre des précautions, c'est-à-dire donc en particulier sur le fait que je ne suis pas une spécialiste de Balzac et aussi que j'ai bien conscience que l'état actuel des données nous oblige à travailler avec beaucoup de filets, il faut prendre beaucoup de précautions et notre œil de philologue ne cesse de pleurer et puis l'autre essaye de rire et de faire quand même un peu de travail parce qu'on est bien obligé d'avancer avec ce qu'on peut utiliser comme corpus aujourd'hui. Donc pour moi, Frantexte n'est pas un corpus, c'est un ensemble de textes qui a été recueilli dans un cadre tout à fait particulier pour les besoins de la lexicographie et comme j'ai trempé dans l'affaire du dictionnaire, je sais aussi les tenants et les aboutissants, mais néanmoins, à l'heure actuelle, c'est un corpus important de textes que j'avais en plus à ma disposition. Et j'ai essayé de tirer parti de cet ensemble de textes avec quelques hypothèses et en essayant de limiter au maximum les dégâts, entre guillemets, qui ont trait à la constitution de cet ensemble, d'une part, et à l'état actuel peu enrichi des données. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de travailler sur le corpus roman uniquement, le corpus roman de 1830 à 1970. Donc, ce corpus a été choisi en fonction d'hypothèses, en particulier le problème de l'orthographe. Évidemment, dès qu'on est dans un état antérieur, on va se trouver avec des problèmes qu'a signalé Michel Bernard ce matin, par exemple, comme le problème de âme avec ou sans accent circonflexe, etc., ou les formes verbales en noir. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé en 1830 et je suis allée jusqu'en 1960 pour avoir à l'époque où j'ai commencé ces recherches, il y a 5 ans, un corpus à peu près homogène, y compris dans la période contemporaine. Et je serai amenée à noter quelques problèmes chemin faisant, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, dans ce corpus, je fais l'hypothèse qu'on peut arriver à repérer des régularités au plan thématique, c'est-à-dire que chez des auteurs qui ont traité des mêmes thèmes, on peut retrouver un ensemble de mots qui véhiculent les traits sémantiques que l'on recherche. Donc nous, on s'intéresse à la fois au niveau qui est en dessous du mot, celui du trait sémantique, et un niveau qui est au-dessus du mot, qui est celui des unités textuelles pertinentes, en particulier des unités qui sont des isotopies, qui permettent de rentrer dans les thèmes et dans le contenu, dans le sens. Donc, j'expliquerai un petit peu ça. En gros, si vous voulez, on va s'apercevoir que si déjeuner est une forme caractéristique au sens des spécificités, comme en a parlé Michel Bernard ce matin. Si déjeuner est une forme caractéristique dans Balzac, dans le Père Goriot de Balzac, en revanche, vous n'aurez jamais suffisamment d'indexation de chaque mot pour vous dire si déjeuner à cet endroit du texte est sur l'isotopie repas ou sur l'isotopie pièce de vaisselle. Donc même si on a désambiguisé le déjeuner, le verbe et déjeuner substantif, au niveau du substantif, on a encore deux isotopies, donc deux axes sémantiques différents qui partent sur tout à fait un autre type d'association. Donc, à partir de ce moment-là, il est vain, je crois, de se battre au niveau des mots. La question, c'est toujours dans quelle aire sémantique on se situe Et ça, il n'y a que le contexte qui peut vous permettre, le contexte proche et éventuellement de plus en plus loin, mais le contexte proche déjà vous permet de vous situer dans un axe sémantique ou un autre. C'est pourquoi, à la fois, je vous dis, les mots sont importants parce que c'est notre mode d'entrée, mais en même temps, on travaille sur les mots pour tout de suite passer au stade en dessous ou tout de suite passer au stade au-dessus, qui est celui des isotopies et des unités textuelles pertinentes qui vont nous permettre d'aller au niveau du sens. Donc, les outils dont je me sers ont été élaborés par un informaticien de l'INALF, mais ne sont pas inclus dans le moteur de recherche actuel de Frontex. C'est encore confidentiel. Je vous montrerai éventuellement comment ça se présente. Je regrette toujours d'être à peu près la seule à m'en servir, parce que je pense que ce sont des outils intéressants et que c'est dommage que ça ne soit pas mis à la disposition des chercheurs et du public, mais c'est l'état actuel des choses. Et ces documents, je les ai établis aussi avec lui en fonction du problème de l'interprétation. C'est-à-dire que, puisque le mot n'est pas notre religion, ce qui compte toujours, c'est de situer le mot dans son contexte, et il faut avoir très vite, d'un seul coup d'œil, des renseignements qui nous renvoient aux échelons supérieurs, c'est-à-dire au niveau du texte et au niveau du corpus de référence, le corpus roman de 1830 à 1970. Donc ces documents sont faits pour situer toujours dans le corpus de référence et d'autre part pour permettre de situer le mot sur lequel on est le mot qu'on est en train d'étudier dans le contexte des autres mots caractéristiques du texte. Et c'est pourquoi, bon, je pense que je vais vous montrer tout de suite ceci, bon, après un premier transparent, simplement pour situer, bon, un petit peu les spécificités, la façon dont j'ai travaillé. Donc, dans l'ensemble Frontex, j'ai repéré un corpus de référence en fonction d'hypothèses. Et dans ce corpus de référence, le corpus de travail peut être soit un ensemble de mots autour d'un mot pôle, d'un mot pivot dont je m'intéresse pour la recherche thématique, ou bien, dans le cadre de recherche dont je vais parler aujourd'hui, l'ensemble d'un roman de Balzac par rapport aux 350 romans que contient le corpus de référence. Et les documents que ce système d'analyse sémantique, donc on a appelé SAS, fournit, là c'est un peu petit, mais je pense quand même que vous voyez qu'à chaque fois on a un numéro d'ordre, donc c'est la première forme caractéristique pour ce texte par rapport à l'ensemble du corpus. À côté, vous avez le score des cas réduits. Ensuite, vous avez la fréquence de ce mot dans le texte en question et la fréquence dans le corpus global. Et en décalage, on a mis les mots de fréquence 2 qui, par exemple, dans une recherche thématique sur un corcus de pluriauteur, donc sur les 350 romans, Si 150 auteurs ont traité, ont employé un mot, vous pouvez savoir très vite si ce mot est peu utilisé dans le texte ou dans le corpus de travail. Ça peut vous permettre soit d'évacuer tout de suite des hypothèses ou au contraire d'aller vers les choses plus particulières. Et pour l'interprétation, on a mis au point des documents qui permettent donc de voir le contexte du mot auquel on s'intéresse avec en majuscule les mots qui sont considérés les signes, puisque les signes de ponctuation sont également pris en compte, les signes qui ont été repérés également dans ce contexte comme caractéristiques du texte. Ce qui permet à chaque fois de préciser, par exemple, une isotopie dans laquelle on se situe. Bon, ici, par exemple, sur l'argent, donc là, il est bien question de monnaie, de numéraire, et non pas du matériau argent. Donc, j'insiste sur ceci parce que on a un peu évoqué ce matin certains débats qui circulent dans différentes communautés, mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de travailler au niveau des documents qui permettent l'interprétation. Parce que, en définitive, c'est toujours ça la grosse question. Et C'est pourquoi aussi je me suis contentée d'un seul corpus, d'un seul genre textuel, avec des hypothèses donc par rapport à ce genre. On considère donc que par hypothèse que les formes caractéristiques du texte qui vont être sorties au-dessus du niveau de la mer par le test probabiliste sont non pas les mots caractéristiques du texte, mais les mots qui véhiculent, qui permettent d'exprimer, de lexicaliser les isotopies du texte. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des mots comme ça qui cheminent le long du texte, qui renvoient à d'autres mots du texte et qui parlent par exemple pour le père Goriot, à la fois de l'axe pauvreté-richesse, comme le mot bal, par exemple, qui est à la fois indexé sur l'isotopie de la pauvreté et de la richesse, mais aussi l'isotopie du paraître, mais aussi l'isotopie de l'entrée dans le monde de Rastignac. Et ces mots qui sont sortis par le test probabiliste, en fait, sont souvent surdéterminés par des isotopies à la fois spécifiques au texte et des isotopies plus générales, comme la pauvreté et la richesse. Donc j'évoquerai au fur et à mesure le type de problème que j'ai rencontré. Je pense que je vais tout de suite passer au résultat dont vous avez quelques éléments dans l'exemplier. Vous pouvez voir que les premiers signes sélectionnés dans le père Goriot, ici, on vous les a présentés à la fois chapitre par chapitre, et à la fois pour l'ensemble du père Goriot. Évidemment, le score va être différent suivant qu'un mot est sélectionné dans un chapitre ou dans le tout, puisque l'ensemble textuel dans lequel il se situe est différent en volume. Et ce type de document permet de vérifier si on a affaire à une thématique propre à un chapitre et d'aller plus finement peut-être dans l'interprétation. Donc, on va voir que, par exemple, si le mot vermicellier est attesté avec un score aussi important, c'est bien sûr parce que 120, il faut savoir que le seuil statistique pour les cas réduits, c'est 3. Donc, 120, c'est énorme et ça vient forcément du corpus de référence dans lequel seul Balzac emploie le mot. Donc, ensuite, on a des mots qui lexicalisent les protagonistes du texte, la vie comtesse de Beauséant, étudiant qui réfère à Rastignac, des pensionnaires et la pension, le chapitre 1 s'intitule la pension, une pension bourgeoise, donc c'est la description de la pension évoquée, et vous avez des mots qui lexicalisent les différents protagonistes, et je pourrais aller un petit peu plus loin en montrant que le déjeuner de Vermeil, même si ça n'est pas un personnage humain, a un rôle important dans ce chapitre. Le chapitre 2, c'est l'entrée dans le monde de Rastignac. Donc vous avez en tête étudiant et vicomtesse, la vicomtesse de Beauséant qui met le pied à l'étrier à Rastignac. Et les sœurs Goriot, la baronne, donc c'est la baronne de Resto, etc. Dans le chapitre 3 qui s'intitule Trompe-la-mort, donc c'est l'épisode où Vautrin se fait reconnaître et arrêter à la pension Vauquer. Et là, vous avez des mots qui évoquent ce personnage. Le chapitre 4 s'intitule La mort du père, et on y voit à la fois l'agonie du père Goriot et l'entrée dans le monde de Rastignac qui aboutit au dernier mot du texte, à nous de Paris. Donc, ce type de document permet à la fois de travailler au niveau de la thématique du texte et de l'ensemble de la thématique de chaque chapitre et de l'ensemble, en particulier dans le cas des évolutions de personnages. Par exemple, pour Rastignac, la molécule sémique qui constitue le personnage Eugène de Rastignac évolue entre le début et la fin, perd ses traits de naïveté, par exemple, pour, au chapitre 4, ne posséder que le trait arriviste, corrompu et décidé à tout pour arriver. En même temps, vous voyez qu'au niveau de l'ensemble du texte, on retrouve en tête, bien sûr, les, les mots qui lexicalisent les traits des différents personnages, comme je vous l'ai dit, donc l'étudiant, la vicomtesse, le vermicellier, le père Goriot, et les pensionnaires de la pension, les gendres qui posent tant de problèmes au père Goriot, etc. Là, je fais un aparté à propos du problème de la lématisation, donc, dont on a parlé ce matin, pour préciser qu'effectivement, moi j'ai préféré, j'avais fait faire les deux types de traitements, et j'ai préféré travailler avec des formes non lématisées, pour la raison justement des traits sémantiques. Parce que si le mot chagrin, par exemple, est attesté à la fois, on va le voir, dans le père Goriot, dans l'Lys, dans la vallée et dans la peau de chagrin, il est bien évident que il est attesté, mais indexé sur des isotopies différentes. Dans la peau de chagrin, il s'agit de la matière, du cuir. Et quand, dans l'Lys, dans la vallée et dans le père Goriot, c'est le chagrin, souffrance morale. Donc, en fait, chagrin avec un S n'est pas le pluriel de chagrin. Au plan sémantique, ça ne suffit pas. Le problème, c'est toujours l'isotopie sur laquelle le mot est indexé. Donc, les catégories syntaxiques peuvent servir à désambiguiser des traits sémantiques dans la mesure où le substantif et le verbe, par exemple, ne véhiculeraient pas exactement les mêmes traits. Mais inversement, on se prive de beaucoup de choses si on lématise à tout crin et on perd, en particulier au niveau des verbes, bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, on perd des informations importantes, comme par exemple, vous voyez dans la colonne des mots qui sont sélectionnés pour le tout, vendrait, ou bien, bon là je crois que le tableau n'est pas assez grand pour le montrer, mais on avait des formes comme nous y courrons au chevet du père Goriot, mais après le bal, dit sa fille, parce qu'elle n'a pas l'intention du tout de se priver de cet événement important pour elle. Donc, quand le père Goriot dit si elle savait que j'étais malade, elle viendrait et elle me soignerait. Bon, ce conditionnel comporte beaucoup de questions et c'est complètement lié à la thématique du récit et à la thématique de l'ensemble du texte. Donc, je crois qu'effectivement, la lématisation pose des problèmes. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir, et c'est vers quoi je vais dans la constitution des outils en question, c'est qu'à la fois, on doit avoir un affichage qui permet de voir de rassembler les formes pour pouvoir interpréter peut-être rapidement déjà les grandes isotopies, etc. Et ensuite, de toujours pouvoir afficher plus finement. Donc, non seulement les temps d'un verbe, mais les personnes, etc., des déterminants, par exemple, des pronoms, et ensuite, éventuellement, de constituer aussi des paquets de variables, des paquets qui nous intéressent, comme je vais montrer un petit peu plus loin, en fonction d'une hypothèse ou de la recherche en cours. Et je crois que ça, c'est très important qu'il y ait dans les outils une espèce de sorte d'interactivité et de possibilité laissée à l'utilisateur de constituer ses propres paquets en fonction de sa recherche. Donc, je continue un petit peu là sur le père Goriot avant d'aller un petit peu plus loin avec d'autres textes. On va s'apercevoir que les contextes, comme je vous ai montré autour d'un mot, comme ceci, permettent de trouver des analogies entre des personnages pour lesquels le narrateur a employé les mêmes termes. Et je pense par exemple au verbe ensevelir chez Balzac, des mots comme ensevelir et sublime. Bon, sont sublimes les personnages en général, les personnages qui n'arrivent pas à supporter la corruption du monde, ou les personnages qui vivent à la campagne comme le Lys dans la vallée, en gardant leur pureté et éventuellement en mourant à la faim, d'ailleurs, comme le père Goriot et comme Madame de Mortsauf. Donc, on retrouve comme ça des isotopies qu'on peut parcourir dans l'ensemble de la comédie humaine, je crois, sur quels sont les personnages qui, par exemple, servent de tuteurs, enseignent ce qu'est la société, comme Madame de Beauséant pour Eugène, comme Vautrin pour Eugène, d'ailleurs, qui a un discours assez proche de celui de Madame de Mortsauf pour Félix de Vandenesse. Et comme ça, je pense que, bon, c'est la recherche dans laquelle je suis actuellement, mais je n'ai pas encore pu avancer suffisamment, mais je crois qu'au détour de certains mots, comme ça, on va retrouver des personnages qui ont des traits communs et qui permettent peut-être d'aller plus finement dans l'étude de certaines thématiques de Balzac. C'est le cas aussi avec des mots comme ensevelir. Alors ce verbe, Balzac l'emploie régulièrement pour tout ce qui est secret de famille, les choses qu'on cache, et également donc pour le père Goriot, donc, qui est enseveli au sens propre du terme, et la vicomtesse de Beauséant qui va s'ensevelir en Normandie parce qu'elle ne peut pas supporter la désertion de son amant. De même, je vous ai parlé tout à l'heure du déjeuner de Vermeil. Donc le déjeuner de Vermeil du père Goriot est un acteur important qui symbolise au début du texte la richesse du père Goriot. Madame Fauquet, quand elle l'aide à emménager chez elle dans sa pension, elle regarde amoureusement toute la belle argenterie du père Goriot, tous ces beaux objets qui en font un homme riche. Et à la fin, il est obligé de se séparer de ce déjeuner dont il avait dit que jamais de la vie il ne s'en défrait pour pouvoir payer la robe de bal à sa fille. Par exemple, au chapitre 1, il disait « J'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que de me séparer de cela. Dieu merci, je pourrais prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours. » Et en fait, ensuite, c'est le dernier objet dont il se sépare. Et quand le déjeuner de Vermeil est devenu un lingot d'or qu'on peut vendre chez le Gobsec pour avoir de l'argent, c'est la fin du père Goriot. Lui aussi, il meurt, il ne peut plus vivre dans ce monde. Donc il y a comme ça des parentés qu'on va retrouver au détour des mots. Et encore une fois, ce n'est pas dans la religion du mot, mais c'est parce qu'ils servent à faire passer des traits sémantiques et des isotopies qu'il est important de pouvoir repérer. Et je pense que c'est peut-être une des raisons qui m'ont amené à travailler sur Balzac, c'est que justement il y a cet enchevêtrement, le niveau du texte, le niveau de la comédie humaine et le niveau du corpus de référence. Bon, pour terminer avec le père Goriot, un petit clin d'œil à Étienne Brunet. Donc, ça fait partie d'un petit travail que j'avais fait à la destination des professeurs de français et qui a été publié sur texto, donc sur notre site Internet. On voit bien que Eugène est un mot du père Goriot et que, en revanche, et Eugène est aussi l'étudiant, mais dans la base Balzac d'Étienne, je n'ai pas pu avoir à ma disposition le graphe du mot étudiant, mais j'avais montré que tous les contextes ou presque référés à Eugène de Rastignac. Donc Eugène, c'est une molécule sémique dans le père Goriot, et en fait, après le père Goriot, bon, suivant l'échelle du temps représentée, puisque en fait Rastignac est un personnage qui est apparu dès La peau de chagrin, en 1830-31, et qui a trouvé sa mesure de type ambitieux dans le père Goriot au moment où Balzac commençait à apercevoir son travail de personnage reparaissant qui lui permettrait de fabriquer sa société humaine. Et donc, on peut voir que Rastignac, en fait, est employé un petit peu partout dans tous les textes où va figurer ce personnage, mais en fin de compte, Eugène n'est plus employé d'une manière significative. Et ça, je crois que c'est quand même très important aussi pour faire toucher du doigt aux élèves qu'on n'est pas là dans la représentation de la réalité ou la copie de la réalité, on n'est pas dans l'illusion référentielle et qu'on a affaire à des molécules sémiques qui peuvent changer. Et Eugène n'est pas le même personnage que Rastignac. Donc ensuite, vous pouvez voir dans votre exemplier les premiers signes sélectionnés pour le Lys dans la vallée. Et donc, dans le Lys dans la vallée, je vois qu'il y a une petite chose qui a sauté. C'est ce que j'appelle partie A, c'est la lettre de Félix de Vandenesse à Nathalie de Manerville, qui annonce le récit qu'il va faire de sa vie et de son amour pour Madame de Mortsauf. Donc, le texte est encadré, ce récit est encadré donc par la lettre de dédicace de Félix de Vandenesse et par la réponse de Madame de Manerville à la fin, qui clôt le texte. Donc le test a été appliqué à chacune de ces parties et au tout. Donc toujours pour les mêmes raisons de vérification et de travail au niveau au niveau de la thématique d'un chapitre et des particularités d'un chapitre par rapport au tout. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, effectivement, il y a des mots assez rares dans la base, dans le corpus de référence, qui sont des mots de l'Ouest employés par Balzac, qu'il affectionnait, donc qui sortent en tête, comme Rion, Toux, la Toux, qui est une sorte d'arc à fond plat, je crois. Et puis, parce que le corpus n'est pas structuré et que certains noms propres n'ont pas été reconnus par la machine parce qu'ils n'étaient pas codés, vous avez un mot comme rhétorière qui vient en tête au chapitre 2, ou bien Cassine, troisième position, Baude et il y en a quatre, deux, la Rabelais et la Baude. Donc en fait, ce sont des noms propres qui désignent les fermes que la famille Morsauf a données à des fermiers qui constituent la principale de leurs revenus. Donc là, c'est encore un problème philologique de corpus non enrichi, et on ne devrait pas retrouver ce genre de mots puisqu'on a écarté au départ les noms propres, et j'en profite pour le dire aussi, on a écarté les mots de fréquence 1 quand on fait le travail de repérage des formes caractéristiques par l'écart réduit. Donc là, vous avez des éléments sur la thématique de chaque texte. Et bon, vous pouvez voir que, par exemple, au troisième chapitre où intervient, il s'intitule Les deux femmes, je crois, et donc on voit intervenir Lady Dudley. Et là, on a en tête le petit mot par lequel elle appelle Félix, puisqu'en fait, Félix se fait appeler Amédée par Lady Dudley parce qu'il n'a pas voulu se faire appeler de son prénom d'état civil comme par Henriette de Morsauf. De la même manière qu'Henriette lui a permis de l'appeler Henriette comme sa tante, alors que dans la vie courante, pour les autres personnages, elle est blanche. Donc en fait, comme il s'appelle Amédée pour Lady Dudley, elle a abrégé son nom en Maïdi, ce qui donne la sélection de Maï et de Di au chapitre 3. Et puis, là vous voyez effectivement apparaître l'anglaise, alors que le chapitre 2 est plus centré sur les problèmes domestiques de la famille Morsauf, et vous pouvez ainsi faire tout un travail de recherche éventuellement de comment fonctionne une isotopie à travers l'ensemble du texte. Alors pour terminer, je vous disais tout à l'heure que je pense qu'il est important aussi qu'on puisse interroger un texte grâce à ces méthodes, mais en fonction de paquets de variables qui nous intéressent et dont tout à l'heure François et Denise vont vous parler aussi dans leur intervention. Donc je vous ai donné une petite récapitulation des pronoms parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir obtenir des éléments pour analyser plus finement tel ou tel sujet. Donc par exemple l'étude de la parole représentée, de l'interlocution représentée. Et j'ai récapitulé ce qu'on trouve comme pronoms personnels et possessifs et leur sélection dans les différentes parties du texte, qui peut vous permettre de repérer des différences entre les trois textes. Donc, je pense que normalement, vous avez la récapitulation. Moi, je ne retrouve pas dans votre document. Vous devez avoir la récapitulation entre les différents textes. Pardon. Donc je fais allusion à la comparaison entre le père Goriot, le lys dans la vallée, la peau de chagrin et la cousine bête. Je pense que ce genre de récapitulation montre bien le statut particulier du lys dans la vallée, donc qui est un roman à la première personne. Vous voyez l'importance des pronoms de la première personne par rapport aux autres textes. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que si les personnages en général se vous voient aussi bien dans le Père Goriot que dans le Lys dans la vallée, dans la Cousine Bête, on a quand même de l'interlocution à la deuxième personne, étant entendu que la Cousine Bête, qui est le personnage principal, tutoie une grande partie des différents personnages, donc sa sœur, Madame Hulot, son beau-frère, Hortense, sa nièce, bien sûr Venceslas, et puis aussi la personne Madame Marneffe, avec qui elle va concocter sa vengeance. Donc ça, c'est une particularité de La Cousine Bête par rapport aux autres romans. Et je pense que c'est important de pouvoir repérer comme ça des ensembles, des paquets de variables. Encore une fois, Denise et François vont vous en parler au niveau d'un gros corpus. Mais moi, j'avais voulu montrer le statut particulier d'Ulysse dans la vallée. C'est peut-être aussi un élément qui peut permettre au niveau de l'enseignement de rentrer dans un texte avec des élèves après une leçon de grammaire sur les pronoms, etc., et de faire une lecture suivie en partant de cette thématique des pronoms, en la reliant éventuellement, bien sûr, aux temps verbaux, aux personnes, etc. Donc, pour finir, j'ai ajouté également la comparaison entre trois romans du corpus qui, cette fois, mettaient en perspective le Père Goriot et d'autres auteurs, donc Sabatier dans Le Chinois d'Afrique et La Route des Flandres de Claude Simon. Et vous voyez que, de la même manière que les systèmes de ponctuation que j'ai étudiés dans une autre recherche, les systèmes des pronoms varient très fortement selon les textes, et que ça peut être intéressant de rentrer par ce biais-là dans les textes et d'aller voir de plus près qui parle à qui, la personne représentée, où se situe le narrateur, si le narrateur est intradiégétique ou non, etc. Et pour finir, comme ce corpus, et c'est encore un des problèmes qu'on rencontre avec Fontex, comme le corpus roman, en fait, contient les nouvelles, parce que le système bibliographique avait relié les genres fictionnels ensemble, donc les contes et les nouvelles sont également dans mon corpus de départ. Bon, ça, je le savais dès le début, mais j'ai accepté cette contrainte, parce que, d'une part, il n'y avait pas la possibilité de fabriquer un corpus suffisant pour les nouvelles où le poids de Maupassant aurait pu être pondéré, et que d'autre part, comme je m'intéressais à la thématique et que personne jusqu'à présent n'a été capable de fonder une typologie des textes où on montre réellement ce qui sépare le roman et le conte et la nouvelle, et genre bref, au niveau de la thématique, je parle. Bon, alors j'ai accepté au départ, donc dans cette recherche thématique, de garder les nouvelles, étant entendu que je pouvais me poser des questions chemin faisant au vu des résultats. Donc là, simplement, c'est un peu une prospective. Si on s'intéresse à un autre sous-genre narratif, comme la nouvelle, on peut voir que dans des nouvelles de Maupassant, le système des pronoms est encore différent. Bien sûr, la nouvelle Toine est beaucoup plus... Elle se sépare des autres dans la mesure où elle met en scène le monde rural avec des formes et l'idée de pronoms, et en particulier le « ça » aussi, qui les contextes le révèlent, ça s'intéresse, et la manière de s'adresser à un personnage, ou « on », qui reproduit probablement dans l'esprit de Maupassant une façon particulière de parler dans le monde rural, qu'on ne retrouve pas dans les autres et les trois autres nouvelles qui s'intéressent au monde des employés de ministère. Donc voilà, je pense qu'il y a comme ça un ensemble de choses qu'on peut pointer, sur lesquelles on peut s'interroger, sur lesquelles aussi il faut se poser des questions et aller plus loin, où il faut toujours penser que les problèmes de recueil des données d'une part, de structuration des données, de manque de structuration des données, le manque de codage sur les noms propres, sur les mots en italique, sur les mots qui sont cités, etc., posent toutes sortes de questions, mais bien sûr, on se reporte sans cesse au texte pour vérifier et améliorer l'interprétation. Donc, je pense que c'est important de créer des outils qui qui permettent de faire ce travail d'aller-retour sans arrêt du plan local au plan global, de ne pas perdre de vue qu'on s'intéresse toujours aux mots pour ce qui se passe en dessous de son niveau et au-dessus de son niveau, et qu'en particulier, comme on l'a vu aussi ce matin, la question des genres est déterminante pour, et que c'est vers ça qu'on peut aller maintenant qu'on a des gros corpus à notre disposition. On peut essayer de caractériser les genres et les sous-genres, et là, c'est l'objet de l'intervention qui suit.
Bien, merci, Éric Bourguillon. Merci bien pour cet exposé. On va peut-être poser quelques questions, des remarques, avant de passer à la communication de François Rastier et Denise Malrieux. Est-ce qu'il y a des questions ?
C'est des scores statistiques. Hein, comme ce sont toujours des scores statistiques. J'ai pas mis les décimales. Hein, là. C'est le score des cas réduits. Des cas réduits. C'est pas la fréquence, hein, c'est le score. Le score statistique toujours. Par rapport au corpus de référence, roman 1830-1960.
Une autre question, est-ce que vous avez essayé de faire des relevés à partir des formes verbales, enfin de travailler sur les formes verbales, parce qu'en balayant rapidement, on se rend compte qu'il y a des choses absolument fascinantes, peut-être finalement plus pertinentes que pour les pronoms qui nous amènent sur des questions très génériques,
oui.
Mais sur les formes verbales, enfin sur la peau de chagrin, c'est le regrettion florissé du chapitre 1, l'antithèse est très intéressante et on pourrait prendre des exemples pour chaque roman et chaque chapitre.
Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça ne tenait pas dans une intervention, parce que partir dans le réseau des verbes, c'était vraiment aller trop loin au niveau des isotopies du texte. Mais effectivement, bon, c'est bien une des raisons pour lesquelles je pense qu'il vaut mieux ne pas les matiser, ou du moins toujours pouvoir afficher les verbes en fonction de leur genre, de leur personne et puis du temps. Et d'autre part, autour des verbes, vous allez avoir d'autres mots sélectionnés qui vous renvoient à certaines isotopies, et c'est vraiment très important, effectivement. C'est pour ça que moi, j'ai proposé là, ici, un tableau récapitulatif des pronoms pour montrer comment, à partir des pronoms, on allait pouvoir repartir sur tout ce qui avait trait aux personnes par l'intermédiaire des pronoms, puisqu'ils vous permettent de voir tous les contextes réunis. Et là, grâce au document dont je vous ai montré un exemplaire, donc vous avez sous les yeux qui a utilisé tel ou tel verbe, et c'est là aussi qu'on peut faire des découvertes et voir comment telle ou telle personne emploie un de ces mots qui sont sélectionnés par le test par rapport à d'autres. Par exemple, mon enfant dans le père Goriot n'a pas du tout la même valeur suivant que le foyer énonciatif c'est Madame de Beauséant ou bien Vautrin, et pourtant tous les deux l'appellent mon enfant, etc. Donc à chaque fois on va pouvoir voir soit des parentés, soit au contraire des grandes différences qui se relient aux autres composantes textuelles, c'est-à-dire la dialectique, quel acteur, quel rôle dans le texte, et la dialogique, etc. Selon les parties du texte, éventuellement il peut y avoir une évolution. Et donc, bon, par exemple, dans le chapitre 3 d'Ulysse dans la vallée, Madame de Mortsauf mourante appelle aussi Félix Maïdi, comme l'a dit Dudley, parce qu'elle l'a entendu l'appeler comme ça. Bon, et ça, c'est intéressant d'avoir ces contextes justement rassemblés, parce qu'on voit les foyers énonciatifs différents. Et pourquoi Madame de Mortsauf peut l'appeler Maïdi ? C'est parce qu'elle est, au moment de mourir, elle est en train de se demander si elle a fait le bon choix en lui disant non. Donc, et qu'elle se compare à Lady Dudley, qui, elle, a aussi un mari et des enfants, et pourtant...
Oui, ce n'est pas tout à fait une question, mais un complément à propos de Rastignac. Vous aviez même bien montré que la statistique montre que Eugène est propre au père Goriot et que Rassignac se trouve distribué dans l'œuvre de Balzac. Or, Balzac a voulu que Rassignac soit un terme générique, soit un mythe. C'est devenu depuis un mythe, mais déjà dans son idée, mais c'est une idée postérieure. Au moment où il a eu l'idée de la comédie humaine, eh bien, La peau chagrin était écrite déjà depuis longtemps.
Oui.
Et ce que d'autres méthodes, les méthodes historiques, apportent à la statistique, c'est quand même l'essentiel, c'est que ça a été rajouté. C'est Rastignac a été réécrit par-dessus dans les dernières versions de la peau chagrin.
Oui,
c'est
oui,
pour montrer donc la complémentarité entre les méthodes statistiques et les méthodes traditionnelles. Et ma voisine, Nicole Mouzet, le seigneur pour moi, puisque j'avais eu l'occasion de présenter le Balzac presque complet devant la Société des études congressiennes qu'elle dirige. Et puis Pierrot, qui est un grand spécialiste de ça, me dit, allez, interrogeons la machine sur Rastignac. Il se met et s'est esclaffé de rire parce que Rastignac apparaissait dans le peau chagrin alors qu'il n'aurait pas dû lui apparaître suivant les éditions que l'on prenait pour le texte. C'est bien ça, Nicole?
Oui, tout à fait. Pour l'étude génétique, je crois que ça serait important aussi de disposer des différentes éditions, des brouillons, etc., sous une forme informatisée qui permet d'aller très vite au contexte, c'est clair.
Est-ce qu'il y a... Oui.
Comment définissez-vous le signe et comment le sélectionnez-vous dans l'index?
Non, le signe, en fait, j'ai mis signe parce que, comme vous le savez, dans Frontexte, on récupère à la fois les signes de ponctuation. Quand on parle de volume de corpus affiché dans Frontexte, c'est toujours tous les signes, c'est-à-dire les signes de ponctuation entrent en ligne de compte.
C'est une forme graphique ou...
Oui, c'est une forme entre deux blancs, une unité graphique entre deux blancs, en fait. Ça, c'est aussi un des problèmes philologiques, bien sûr.
Y a-t-il d'autres questions ou des remarques? Bon, eh bien, merci Vin Bourillon pour cette communication très claire et très riche. Et puis, je vais donner la parole à François Rastier et Denise Malrieux.